Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La Journée internationale des droits des femmes regarde votre édition sur la situation des femmes en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Gisou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains et directrice exécutive d'Armand Char, sera l'une de nos invitées. Sur cette journée internationale, vous entendrez aussi l'ambassadrice de Palestine en France, Ala Abou Assira. Les Mariannes de la diversité ont initié une pétition en ce 8 mars. L'association demande un engagement des partis politiques pour une vraie parité au sein de l'exécutif, mais aussi à l'Assemblée nationale. Nous écouterons Fadila Meal, présidente des Mariannes de la diversité. Le cap des 2 millions de réfugiés provoqués par l'offensive russe en Ukraine a été franchi aujourd'hui. C'est ce qu'indique le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Le président ukrainien a dénoncé les promesses non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine des bombardements russes. Un ancien ministre algérien de la justice en poste sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika Taïeblou a été condamné à 3 ans de prison, condamnation notamment pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Les obsèques ce mardi après-midi de l'ancien bâtonnier de Paris, maître Olivier Cousy, en l'église Saint-Eustache. Son décès mercredi dernier a suscité une très grande émotion. L'Afghanistan est un laboratoire où nous pouvons constater la pire des expériences humaines pour les femmes, un constat de Gisou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains et directrice exécutive d'Armand Char en cette journée internationale des droits des femmes entretien.
Pour nous les militantes, il s'agit de 365 jours de lutte pour l'égalité qui, évidemment, d'une manière universelle, n'est pas acquise entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne le cas d'Afghanistan, évidemment, c'est, on va dire, un laboratoire où nous pouvons constater la pire de l'expérience humaine, surtout pour les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on disait que le pire endroit sur Terre d'être une femme est l'Afghanistan. Et malheureusement, avec cette prise de pouvoir violente des talibans, les compteurs sont remis à zéro en ce qui concerne les droits fondamentaux des femmes.
Pouvez-vous nous rappeler les mesures qui ont été prises vis-à-vis des femmes en Afghanistan depuis l'arrivée au pouvoir des talibans ?
Écoutez, grosso modo, les femmes ne travaillent plus. C'est-à-dire que dans le secteur privé ou pour l'administration, les femmes, par exemple, le ministère des femmes a été fermé, plombé, et les femmes ont été renvoyées à la maison. En ce qui concerne l'accès à l'éducation, si vous voulez, le système n'est pas complètement rétabli, c'est-à-dire l'expérience des talibans précédentes, mais il y a des écoles de filles fermées un peu partout sur le territoire du pays. Il y a des poches où les filles peuvent encore aller à l'école petite. À l'université, il y a eu un début de ségrégation des salles et des instituteurs ou institutrices, c'est-à-dire que les talibans ont clairement dit que désormais, les professeurs hommes ne pourront pas enseigner aux jeunes femmes étudiantes. Et donc, dans toutes les matières, il fallait trouver des professeurs femmes, sinon les femmes, les filles, les jeunes étudiants n'avaient pas le droit d'assister aux cours. Donc, le travail, l'éducation, évidemment, c'est les deux espaces de présence des femmes à côté des hommes dans la société afghane. Il y a aussi la question de l'absence de justice. Vous savez qu'il y a des militantes, des jeunes militantes femmes qui ont disparu ou qui ont été arrêtées. Malheureusement, il y a eu des cas de viol aussi en détention. Donc, il y a une forme de silence qui s'instaure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace de réclamation, de demande, de manifestation. Les juges femmes ne travaillent plus, évidemment, elles sont évincées. Certaines ont dû quitter le pays par peur, etc. La société civile afghane est grosso modo réduite en silence. La communauté des droits de l'homme, des droits humains, des droits des femmes est réduite en silence. Il n'y a pas de contre-pouvoir du tout. Et la plupart de la population vit sous une menace, sachant que les talibans vont de maison en maison. Souvent, ils ont des listes des gens qu'ils visent. Nous n'avons pas énormément d'informations sur chaque province, puisque la presse ne peut pas travailler, les médias sont très très restreints, les journalistes femmes sont restreintes, les cinéastes femmes sont restreintes, etc. Donc, si vous voulez, c'est une situation. Je sais que la guerre en Ukraine attrape l'attention de l'opinion publique mondiale, mais la tragédie afghane continue.
Avec le retour du ministère du vice et de la vertu, c'est son nom. Bien et cela en dit long.
Ça en dit long, et en plus avec l'interprétation à la fois absolument obscurantiste et violente des talibans, comme vous dites, je pense qu'on va s'approcher vraiment très très rapidement à la situation où, grosso modo, les femmes n'existaient pas publiquement, comme la précédente expérience des talibans nous l'a montré, sachant que les femmes ne pouvaient même pas être visité par un médecin homme.
Il existe une résistance de la part de la société civile. Nous avons pu voir des rassemblements de quelques dizaines de femmes ces dernières semaines, ces derniers mois en Afghanistan.
Tout à fait, les femmes ont été, les jeunes femmes surtout, ont été vraiment remarquables depuis le mois d'août et la chute de Kaboul et du reste du pays. Mais elles sont réprimées férocement. Quand je faisais référence à l'arrestation, il s'agissait justement de quelques jeunes femmes courageuses de Herat et de Kaboul qui ont été arrêtées et punies. Et donc je pense que, je ne sais pas, en tout cas c'est un très très grand risque ce qu'elles prennent. Et il faut voir comment est-ce que la diaspora afghane pourrait s'organiser. En tout cas, on n'est pas sur la... sur le bon côté de l'histoire à l'heure actuelle en ce qui concerne l'Afghanistan.
Gisou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains, directrice exécutive d'Armand Char. À l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, entretien avec l'ambassadrice de Palestine en France, Ala Abou Assira.
Cette journée est une journée de mobilisation et sensibilisation internationale. En Palestine, le 8 mars est une journée fériée, justement par décret du Conseil des ministres, pour mobiliser et sensibiliser l'ensemble de la société palestinienne aux droits des femmes et à la nécessité d'atteindre l'égalité femmes-hommes. Il est important de savoir que l'État de Palestine a adhéré à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, sans réserve, en 2014. Aujourd'hui, nous menons un travail colossal justement pour réformer le cadre juridique afin de protéger la femme et garantir l'égalité femmes-hommes en Palestine. Aujourd'hui, je peux dire que je suis extrêmement fière de la femme palestinienne, la femme qui a milité contre l'occupation, la femme qui a participé à former, éduquer, créer une société bien avancée, une société basée sur l'éducation, sur les sciences, sur l'apprentissage. Les femmes palestiniennes existent dans tous les domaines, social, éducatif, de santé, d'innovation. On voit aujourd'hui en Palestine des femmes qui développent les applications, des codeurs, des enseignantes, des professeurs, des médecins et des militantes. Le monde entier fête la journée internationale de la femme. Et en Palestine, on a 32 femmes prisonnières politiques dans les geôles israéliennes. Des femmes enceintes, des femmes malades, privées tout simplement de leurs droits basiques et surtout à la santé. La femme palestinienne mérite sa place dans la société, mérite l'égalité dans la société. Et je souhaite saluer non seulement la femme palestinienne, mais les femmes arabes et toutes les femmes du monde entier dans cette journée importante, dans cette journée où on espère que le monde aura conscience de la nécessité d'atteindre l'égalité femmes-hommes et de dire à quel point je suis fière de ces femmes qui brisent le plafond en verre.
Justement, cette journée internationale pour l'égalité des droits, quel état des lieux faites-vous dans les territoires palestiniens?
La Palestine a déjà adhéré à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination. Dans le Conseil palestinien central, la participation de femmes arrive à 25%. Il y a beaucoup à faire, il y a des lois à réformer, il y a un cadre juridique à réformer et reformuler afin de garantir la protection et l'égalité femmes-hommes. Le chemin est long, mais je suis confiante de la volonté politique de l'État de Palestine, mais aussi de la société palestinienne qui voit la femme en tant que partenaire principal. Je suis fière quand je dis que le taux de scolarité, d'éducation dans l'enseignement supérieur de la femme est à 60%. 60% des étudiants dans les universités palestiniennes sont des femmes.
Et avez-vous le sentiment que cette journée du 8 mars prend chaque année une ampleur encore plus importante ?
Bien évidemment, c'est pour ça que par le Conseil des ministres, décret de Conseil des ministres, on a décrété la journée du 8 mars comme journée nationale de la femme, journée fériée, mais ça veut dire faire des activités dans l'ensemble de la Palestine occupée afin de sensibiliser la société dans son ensemble envers les droits des femmes et envers la nécessité d'atteindre l'égalité entre femmes et hommes.
Et quel type d'activité, de manifestation est organisée ce 8 mars ?
Toutes sortes de manifestations, que ce soit au niveau officiel, les colloques, toutes sortes d'activités qui mettent la lumière sur le statut de la femme, la position de la femme dans la société palestinienne, et d'encourager les législateurs aussi, afin de réformer et revoir, faire une révision des lois concernant la femme afin de la mieux protéger.
L'ambassadrice de Palestine en France, Ala Abou Assira, dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes, deux événements ont été organisés au palais de l'Élysée ce mardi, événement consacré ce matin à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en Europe, ainsi qu'une cérémonie cet après-midi en l'honneur des lauréates de l'initiative Marianne pour la défense des droits de l'homme. Les Mariannes de la diversité ont initié une pétition. En ce 8 mars, l'association demande un engagement des partis politiques pour une vraie parité au sein de l'exécutif, mais aussi à l'Assemblée nationale. Fadila Méal, présidente des Mariannes de la diversité.
On va avoir une période extrêmement importante puisque c'est l'élection présidentielle, un acte cardinal pour l'avenir de notre pays, puis aussi les législatives derrière. Et qu'est-ce qu'on voit, malgré une démarche quand même très offensive des féministes, 38% de femmes députées, 32% au Sénat, 5 femmes à la tête des régions sur 18, et au niveau des départements, c'est vraiment très difficile. On est pratiquement à 11% de femmes au niveau des conseils départementaux. Donc, il reste des bastilles à prendre, et c'est pour ça qu'on a inscrit on a rédigé finalement ce manifeste qui s'adresse aux partis politiques pour leur dire, ça suffit. Il faut vraiment que maintenant vous puissiez avancer au sein de vos instances. Et donc les Mariannes de la diversité demandent que le nouveau couple présidentiel, exécutif et chef de gouvernement, eh bien tout simplement qu'il soit paritaire, à l'image de la société française. Nous demandons que le binôme soit paritaire.
Fadila Méal, présidente des Mariannes de la diversité, elle répondait à Loïc Barrière. Le président ukrainien a dénoncé aujourd'hui les promesses non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine des bombardements russes. Cela fait 13 jours qu'on entend des promesses, 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera, selon ses mots, dans une vidéo publiée sur Telegram. Il demande la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Cette option a été catégoriquement exclue par les États-Unis comme par l'OTAN. Samedi dernier, Vladimir Poutine a prévenu qu'il considérerait une telle zone comme une participation au conflit armé. Le cap des 2 millions de réfugiés provoqués par l'offensive russe en Ukraine a été franchi aujourd'hui, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. D'autres régions du monde ont vu cela, mais en Europe, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le Haut Commissariat. Au moins 21 personnes sont mortes hier soir dans une frappe aérienne sur la ville de Soumy, à quelques 350 km à l'est de Kiev. Information des services de secours ukrainiens. Des enfants figurent parmi les victimes. Un deuxième centre nucléaire a été endommagé en Ukraine par une attaque russe, c'est ce qu'indique l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des obus d'artillerie ont endommagé une installation de recherche nucléaire dans la deuxième ville assiégée d'Ukraine, Kharkiv, sans conséquences radiologiques selon l'AIEA. Un ancien ministre algérien de la justice en poste sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, Tayeb Lou, a été condamné à 3 ans de prison, condamnation notamment pour entrave au bon fonctionnement de la justice. Le pôle financier et économique du tribunal algérois de Sidi Mohamed a aussi condamné l'homme d'affaires Tarek Noah Kouninef à 4 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars pour complicité d'abus de fonction. Emmanuel Macron a lancé sa campagne pour l'élection présidentielle. Lundi soir, une première réunion publique dans les Yvelines à Poissy. Le président candidat a déroulé ses premières promesses, dont la suppression de la redevance audiovisuelle. Pour faire face à la hausse du prix de l'essence, Emmanuel Macron a annoncé une prochaine mesure de soutien. Et sur l'école, il a proposé l'instauration d'une demi-heure de sport obligatoire tous les jours pour les élèves de primaire. Les obsèques ce mardi après-midi de l'ancien bâtonnier de Paris, maître Olivier Cousy, c'était en l'église Saint-Eustache. Son décès mercredi dernier a suscité une très grande émotion, notamment chez ses confrères qui ont salué sa bienveillance, sa disponibilité et son engagement. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne, émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.